Bonjour à tous. Je me suis pas accordé avec Sylvie et je vois que le thème de son introduction rejoint un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on dédie un petit moment à prier. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour cette église, pour le fait qu'on puisse être là, ensemble, en train de partager ces moments qui ne sont pas anodins, des moments de louange, des louanges de moments de réflexion, des moments d'adoration, des moments où nous voulons t'exprimer toute notre gratitude pour ce que tu as fait dans nos vies et que tu continues à faire dans nos vies. Nous voulons te mettre devant toi ces moments, cette prédication, cette méditation autour de ta parole, et nous te demandons que ta parole fasse ce qu'elle sait faire, trancher dans nos vies, dans nos âmes, et qu'elle puisse être édifiante pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Oui, comme je vous disais, ça m'a interpellé que Sylvia parlait de la valeur que nous avons auprès de Dieu. Et je voulais partager avec vous cette réflexion autour de la valeur. Je me rends compte que autour de nous, nous sommes entourés de choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. En se promenant dans un centre commercial avec ma fille l'autre jour, je me disais qu'il y a plein de magasins dédiés à des choses qui sont parfaitement inutiles. On fabrique des produits qui ne servent à rien en réalité. Et c'est ces produits-là qui attirent beaucoup les enfants, curieusement. Les bijoux, les jeux, les choses comme ça, des choses qui foncièrement, ça ne sert pas à grand-chose. Après, il faut faire attention avec cette idée de l'inutile. Je me souviens que quand il était question de réouvrir les salles de spectacle, les artistes disaient « mais pourquoi on est considéré comme non nécessaire ?» alors que c'est fondamental, la culture, les pratiques sportives, les réunions entre amis, on a vu, on a compris avec ce que nous avons vécu, qu'elles ne sont pas secondaires, ce sont des choses d'une importance capitale. Mais il est vrai que de nos jours, il y a des choses qui émergent, qui ne sont pas seulement inutiles, mais qui n'ont pas d'existence matérielle et qui acquièrent une valeur qui est peut-être démesurée. On spécule même avec ces choses-là. Vous avez peut-être entendu parler, je vois qu'il y a des informaticiens dans la salle, donc vous avez peut-être entendu parler des NFT, Non-Fungible Tokens. Je sais qu'on l'a évoqué avec les gens du Rio, et peut-être on a écrit des choses dessus. Donc c'est des jetons non-fungibles. Alors c'est un nom bâtard pour quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Ce n'est pas un champignon toxique ou un truc comme ça, mais il s'agit d'un certificat numérique, simplement une sorte d'attestation, mais c'est sur format numérique, qui peut être détenu par une personne et dont la propriété ne peut pas être remise en cause. Donc vous pouvez avoir une photo ou une vidéo sur votre ordinateur. Vous pouvez faire des copies, plein de gens peuvent faire des copies un peu partout dans le monde, mais le fichier original peut appartenir à quelqu'un. Donc ça peut être quelque chose qui est vendu, et on peut l'acheter et puis le revendre par la suite à une autre valeur et spéculer avec ces valeurs-là. Alors un exemple que j'ai vu hier. En 2011, une femme fait une vidéo de sa fille, elle la met sur Internet, et il y a des gens qui prennent une capture d'écran de cette vidéo, et ils trouvent que le regard de la petite fille est amusant, et donc ils se mettent à, à mettre des commentaires sur des éventuelles blagues que pourrait raconter la fille avec cette image. C'est ce qu'on appelle un meme. Eh bien, cette capture d'écran vient d'être vendue. Alors, ce n'est pas la fille qui est vendue, ce n'est pas la voiture, c'est la photo. Mais c'est une photo numérique. Mais c'est l'original de la photo qui a été vendue au prix de 74 000 dollars. C'est pas mal. Mais ce n'est pas seulement des photos. On a vendu un message sur le réseau social Twitter, le premier message qui a été posté. Ça a coûté 2 millions de dollars. Quelque chose qui n'a pas d'existence matérielle, quelque chose qui ne sert à rien non plus. C'est juste pour le fait de posséder quelque chose qui est totalement immatériel. Alors, il y a des vidéos YouTube qui sont vendues pour 5 millions. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui donne de la valeur à quelque chose? Et je suis allé voir du côté des économistes et je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça de définir qu'est-ce qui donne de la valeur à quelque chose. Traditionnellement, ce qui crée de la valeur, c'est le travail. L'effort que l'on doit fournir pour produire quelque chose et pour l'amener sur un marché. Mais dans le monde actuel, cette logique a été bouleversée, chamboulée, et on a poussé la logique du marché peut-être un peu trop loin. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'il était inquiet parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas le goût de l'effort. Ils veulent que tout soit facile. C'est normal, les modèles qu'ils suivent, c'est des gens, des personnes qui n'ont pas fait des études, ils n'ont pas fait une grande carrière dans une entreprise, dans une institution publique, mais c'est des jeunes influenceurs sur les réseaux sociaux qui gagnent leur vie en faisant quelque chose qui ne semble pas demander de grands efforts. Ma fille me demandait, papa, papa, est-ce que tu es connu? Je ne suis pas tellement connu finalement. Je suis pas très populaire sur les réseaux sociaux. J'aime bien regarder comme tout le monde, mais je ne suis pas très populaire. Alors j'ai appris l'autre jour que, je sais, il y a plein d'anecdotes comme ça. Justin Bieber avait 37 millions de followers. Alors c'est un chanteur, et peut-être certains apprécient sa musique, mais. Je trouve que 37 millions de personnes qui le suivent, c'est beaucoup. Mais j'ai appris aussi que la moitié de ces followers n'existent pas. C'est des comptes fictifs que l'on crée pour augmenter l'intérêt de ce chanteur. De nos jours, quelqu'un comme Jésus, j'ai vu ça quelque part, j'ai trouvé que c'était très, très correct. Ben, n'aurait pas eu beaucoup de succès, il avait juste 12 followers, 12 disciples. C'est vrai que bon, lui, il n'avait pas beaucoup de disciples directs, mais il s'adressait quand même à des multitudes. Et je me rends compte que ses discours, les discours qu'il faisait, n'étaient pas si faciles à comprendre. C'est pas comme une blague sur YouTube. C'est des choses qui étaient souvent voilées. Et je me suis penché sur l'évangile de Matthieu. J'ai essayé de voir Jésus sous l'angle de l'enseignant. Je suis enseignant, certains ici sont enseignants aussi. Et je me rends compte que le ministère de Jésus commence par l'enseignement. Tout le ministère de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est de l'enseignement dans les synagogues au début. Et avec des guérisons qui le rendent célèbre jusqu'en Syrie. Son discours sur la montagne est extraordinaire pour un enseignant. C'est la consécration d'une carrière, un tel discours. Ça prend trois chapitres dans la Bible. Et il y a des milliers de personnes qui sont touchées dans le discours sur la montagne. Aujourd'hui, on est des milliards à être encore inspirés par ce discours, parce qu'il révèle des vérités profondes qui ont changé l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi? À la fin du chapitre 7, l'évangéliste affirme que le succès de Jésus vient du fait qu'il enseigne avec autorité. À la fin du chapitre 9, Jésus voit les foules et Matthieu dit qu'il est bouleversé par ces foules parce qu'il voit qu'ils sont fatigués, mais qu'ils sont aussi abattus. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de former ses disciples. Et tout le chapitre 10 est sur comment les disciples sont formés et les envoie dans les villages, mais ils n'ont pas non plus un très grand accueil. C'est là où il y a de la résistance, il y a des gens qui ne veulent pas écouter le message. Et puis Jésus se heurte aussi à d'autres gens très intelligents, les pharisiens, qui ont aussi une résistance au discours de Jésus. Et donc ce n'est qu'au chapitre 13 qu'arrivent les paraboles. Et les paraboles m'ont toujours interpellé. Je me suis toujours demandé pourquoi Jésus parlait en paraboles. Et en fait, les paraboles viennent très tard dans son ministère d'enseignement de la parole. Et je me rends compte que je ne suis pas le seul à être interpellé pour cette manière d'enseigner. Dans le chapitre 13, verset 10, c'est écrit « Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit « Il vous a été donné de connaître les projets de salut du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. » Alors, selon ce passage, la possibilité de comprendre le royaume de Dieu est quelque chose qui n'est pas un droit, c'est quelque chose qui est donné par Dieu lui-même. On ne peut pas l'acquérir, on ne peut pas l'acheter. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Même, il y a un autre passage dans lequel Jésus dit, même des prophètes et des personnes qui ont fait la volonté de Dieu, eux, ils n'ont pas le droit de comprendre. Ce don a en plus la particularité d'être quelque chose qui abonde, qui se multiplie. Donc il me semble que ce que donne la valeur à ce don de Dieu est la rareté de ce don, le fait qu'il ne soit pas accessible à tout le monde. Il est accessible seulement à ceux que Dieu a choisis. Suite à cela, Jésus explique la ressemblance du royaume de Dieu. Il fait des comparaisons, des parallèles pour expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, sans vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Donc il y a la parabole sur le champ sur lequel il aurait posé une mauvaise herbe, sur la graine de moutarde, sur la pâte levée avec du levain, le filet du pêcheur qui attrape des bons et des mauvais poissons. Et dans ces trois paraboles, Jésus montre que le royaume des cieux est quelque chose de caché, de voilé, quelque chose qui se mélange comme le levain dans la pâte, et qui ne peut se révéler que lorsque le milieu dans lequel il est se développe. Un champ, une plante, une pâte, un filet. C'est lorsque ce milieu arrive à maturité que la vérité est dévoilée. Et ce n'est qu'ensuite que l'on peut distinguer le bon du mauvais. Il y a deux autres paraboles dans le chapitre 13, dans lequel il dit que le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ, et que l'autre, c'est que le royaume des cieux ressemble à une perle rare. Dans les deux cas, la personne qui trouve cet objet de valeur, d'une valeur inestimable, elle vend tout ce qu'elle a. C'est intéressant, je vois que la notion de sacrifice apparaît dans ces deux paraboles. Il faut renoncer à quelque chose pour obtenir quelque chose de plus merveilleux. Pour vivre alors le royaume des cieux, il faudrait abandonner tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. Évidemment, ces paraboles ne font pas allusion à des biens matériels, mais elles insistent sur le fait de choisir entre deux possessions spirituelles, une possession ancienne et une possession nouvelle qui a une valeur bien plus grande que l'ancienne. L'interprétation finale nous arrive dans la conclusion que Jésus donne au verset 51. En fait, le numéro du verset est mal écrit. C'est Matthieu 13, verset 51. « Avez-vous compris tout cela ?» leur demanda Jésus. « Oui, répondirent-ils. » Il leur dit « Ainsi donc, tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Un disciple est donc quelqu'un qui doit faire la part des choses et choisir ce qui a le plus de valeur, ce qui est nouveau, et rejeter ce qui est ancien, ce qui a de la valeur dans un système de valeurs humain, mais qui est insignifiant dans un autre système de valeurs, le système de valeurs divin. Selon les paraboles de Matthieu 13, les premières, ce n'est pas facile de distinguer les choses. La parole de Dieu est là pour nous guider, pour faire la part des choses, mais elle n'est pas simple. Je discutais dimanche dernier avec une monitrice de l'école biblique, ici en bas, qui bataillait un peu, beaucoup même, pour expliquer le premier chapitre de la Bible aux enfants, la création, chapitre 1. J'ai regardé ce qu'elle faisait, et c'est vrai que ce n'est pas simple. Je vous mets, vous, au défi d'aller enseigner aux enfants le chapitre 1 du livre de la Genèse. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est peut-être une des choses les plus difficiles qu'il y a. On se demande parfois pourquoi il n'y a pas plus de moniteurs dans l'école biblique. Et là, je me suis dit, ah, peut-être c'est juste parce que c'est très, très difficile. Donc, il ne faut pas aller chercher des explications. Ce n'est pas bien payé, mais c'est surtout parce que ce n'est pas simple. C'est pas du tout simple. Et en fait, un trésor, ce n'est pas un trésor s'il est à la vue de tout le monde. C'est un trésor parce qu'il est caché. Le mot grec utilisé pour quelque chose de caché, celui qu'il utilise dans le chapitre 13, quelque chose de couvert, c'est le mot crypto. C'est le même d'où vient la cryptographie, la crypto-monnaie, ces mots qu'on utilise, qui sont un peu à la mode. Parce que le trésor du royaume des cieux est encrypté. Vous vous souvenez, on l'a évoqué aussi dans le Rio, cette histoire de la personne, c'était en Californie, qui avait perdu un mot de passe et qui n'avait pas pu récupérer une fortune estimée à 220 millions de dollars en crypto-monnaie. Je crois que Maryse avait fait un article là-dessus. En réalité, il ne s'agissait pas d'une seule personne. C'était beaucoup de personnes qui avaient perdu leur mot de passe. On estimait qu'il y avait 140 milliards de dollars en bitcoins sur des comptes bloqués. Le fameux mot de passe, c'est une clé. Quelqu'un m'a expliqué ça l'autre jour. Une clé, c'est une série de chiffres et de lettres qui permet de décrypter une information, mais cette information-là, elle est partout, sur tous les serveurs. C'est quelque chose qui est partout, mais elle est cachée parce qu'il faut cette clé pour pouvoir vraiment la retrouver. Donc le royaume des cieux, finalement, ça ressemble un peu à Internet, où un homme ou une femme, d'ailleurs, vend tout ce qu'elle a, toutes ses valeurs, pour récupérer juste une crypto-monnaie qui a une valeur inestimable. Je connais des gens qui vendent tout ce qu'ils ont, qui investissent tout leur salaire dans des crypto-monnaies. Mais heureusement, le royaume des cieux, c'est quelque chose de plus fiable que les cours des crypto-monnaies. Nous avons à notre disposition des Bibles partout. Dans cette église, il y en a là, derrière, là, en bas, il y a des Bibles. On peut acheter une Bible à 1,50 €. Il y a le ministère des Gédéons qui répartit des Bibles de manière gratuite. Cette information, elle est disponible pour tout le monde. Sur Internet, vous pouvez trouver les Bibles dans toutes les versions de manière totalement gratuite. mais ça ne sert à rien que ce soit totalement disponible si nous ne disposons pas de la clé nécessaire pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu n'a pas fait exprès de cacher le message, mais il a donné un message brouillé qui exige une clé de lecture. Laquelle ? Dans Éphésiens, au chapitre 3, je pense que l'apôtre Paul nous le dit. J'espère que ça a marché. Il n'y a plus de piles. Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes techniques. Il n'y est pas ? Bon, je vous la lis. Paul est en train de parler de son ministère. Il dit « Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. » Merci. À moi, le moindre de tous les croyants, Dieu a accordé cette grâce d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse infinie du Christ. Il m'a accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet de salut caché. Lui, qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Ainsi, maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon ce passage, Dieu avait encrypté la vérité depuis toujours, il avait un projet caché, et même les autorités et les puissances dans les cieux ne pouvaient pas comprendre le message. Mais maintenant, il a livré la clé pour décrypter le message du plan secret. Et la clé, c'est l'Église. Il a mis la révélation de son projet de salut dans les mains de l'Église, dans les mains de Paul, mais aussi dans les mains de ceux qui sont dans cette salle, de mes mains aussi. Dieu nous a accordé cette grâce. Il n'a pas délégué cette responsabilité à des anges, à des manifestations paranormales, mais à nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de blockchain. Alors, la blockchain, c'est ce qui permet justement d'avoir des crypto-monnaies et de pouvoir faire des transactions avec des jetons non fongibles, les NFT dont on parlait au début. Cette technologie est assez récente, mais en fait, elle est basée sur un principe très ancien. Pour qu'une information soit fiable, il faut qu'elle soit partagée par un nombre maximum de personnes. Je pense que Dieu nous a livré à nous la clé du message, c'est par la grâce, parce qu'il a voulu le faire. Mais c'est aussi parce que c'est la manière la plus performante, la plus efficace, de cacher un grand trésor à la vue de tout le monde. L'Église de Dieu est comme une immense blockchain du royaume des cieux dans lequel chacun d'entre nous doit décrypter en permanence ce message. Il ne faut pas perdre la clé. Le message, il est simple, mais il est profond. Et c'est ce que nous partageait aussi Sylvie ce matin. C'est que le salut de Dieu n'est pas réservé à un petit groupe de personnes. Il n'est pas réservé à un peuple. Le salut de Dieu, il est disponible pour tout le monde. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 2, versets 15 à 18. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Alors pour résumer, qu'est-ce qui donne de la valeur au royaume des cieux? Je résume ça à trois choses. La première chose, c'est que c'est quelque chose qui est rare. C'est quelque chose qui n'est pas facilement accessible à tout le monde. C'est pour ça que c'est crypté par Dieu. La deuxième chose, c'est que ce soit partagé, que ce soit quelque chose qui est partagé. Et c'est quand même un peu paradoxal, quelque chose qui est assez rare, mais qui est partagé par tout le monde. Nous ne sommes pas forcément conscients de la valeur de ce que nous avons ici, ce matin. Le monde est prêt à payer pour ce que Dieu nous offre ici, dans cette assemblée. Le monde est à la recherche de partage. Nous avons vu pendant les confinements ô combien le monde a besoin de partage. Les élèves, en ce moment, sont très contents de retrouver les copains. Les étudiants sont heureux de se retrouver entre eux. Les adultes qui travaillent ont besoin, même s'il y a la possibilité du télétravail, ils ont besoin de se retrouver. Et s'ils ne peuvent pas, ils font des appels au Zoom. Maintenant, ils exigent d'aller au resto, se retrouver autour d'une table. Non pas parce qu'ils ne sachent pas faire à manger, mais parce qu'ils ont besoin de partage, d'empathie, de solidarité, d'amour fraternel, tout simplement. Et le monde a besoin de réconciliation aussi. C'est ce que Sylvie nous disait ce matin. Les gens dans ce monde ont besoin de se sentir acceptés, de sentir que ce qu'ils font a de la valeur. Les hommes et les femmes de ce monde ont besoin de savoir ce qu'on dit depuis ce matin, que nous avons une valeur inestimable pour Dieu. Qu'on leur dise ce que dit l'épître, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, que vous connaissez par cœur, « En ceci est l'amour. Non que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous aima et envoya son Fils. » Vous savez, dans la parabole du trésor caché dans les champs ou celui de la perle rare, rien ne nous dit que celui qui abandonne tout pour aller chercher le trésor, ça doit être un être humain. Parce que celui qui a vraiment tout abandonné, celui qui a donné son Fils unique, c'est Dieu. Et le Fils, il s'est donné lui-même, il a renoncé à sa condition de Dieu, puis il a renoncé à sa propre vie humaine, pour nous, seulement pour nous. Et son trésor, le trésor de Dieu, c'est nous. Notre trésor à nous, c'est lui. Je voudrais juste finir par la lecture de ce passage de Colossiens 1, qui me semble qu'il parle à lui tout seul, dans lequel l'apôtre Paul, à nouveau, révèle, nous dit quel est le véritable trésor. Il parle de l'Église. « De cette Église, je suis devenu serviteur, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard, annoncer pleinement son message. » Ce message, c'est le projet de salut qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici en quoi consiste ce projet. Le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, c'est pour ça que je travaille et je lutte avec l'énergie qui vient du Christ et qui agit en moins avec puissance. Le Christ est en nous. Et je pense que la parole de Dieu nous invite ce matin à nous avoir la même attitude que Paul, d'instruire, de chercher à instruire, d'annoncer avec toute la sagesse possible que nous sommes avec le Christ, que le Christ est en nous, que nous sommes en lui. Amen.